Hertz. Et on commence à l'instant l'émission La fabrique d'un autre monde possible. Donc c'est une émission tous les deuxièmes lundis du mois, comme depuis maintenant presque un an, en coopération entre Attaque Toulouse et Campus FM. Voilà, merci à Campus une fois de plus de nous accueillir. Merci à Magie d'être là avec nous.
On essaie de faire au mieux.
Voilà. Et donc nous sommes partis pour une heure en direct. Donc évidemment, vous pouvez téléphoner pour poser des questions, pour faire des remarques sur le sujet de ce soir. Ce sera ce soir le Forum Social Mondial qui aura lieu à Tunis du 26 mars au 31 mars. Et également le Forum étendu avec les activités qui auront lieu à Toulouse sur la même période. Alors autour de moi ce soir il y a plein de monde autour de la table, nous sommes combien ? 6. Il y a Jean-Louis d'Attaque Toulouse, bonsoir Jean-Louis.
Bonsoir.
Il y a Benjamin également d'Attaque Toulouse.
Bonsoir à toutes et tous.
Et il y a Michel qui est d'Attaque Toulouse et aussi spécialiste, expert des aspects semences et alimentation.
Je fais partie du réseau paysanne, ça suffira.
Voilà. Et il y a Social Mondial, en effet il y a des activités spécifiques à Toulouse. Et on va en parler en particulier d'une, en fait on en a choisi une dans toutes les activités qui auront lieu, qui est la souveraineté alimentaire, les accès aux semences, etc. Voilà, voilà. Alors, peut-être un premier point dont je souhaiterais parler ce soir avant tout ça, c'est que c'est quand même deux ans, c'est l'anniversaire aujourd'hui, le 11 mars, de l'accident nucléaire de Fukushima. Donc on peut peut-être quand même en dire un mot.
Joyeux anniversaire.
Très rapidement. Voilà, une pensée pour les Japonais qui sont là-bas. Bah, juste rappeler très brièvement, en quelques minutes, c'est pas le sujet de l'émission, mais quand même, que le tsunami n'avait rien d'imprévisible du point de vue sécurité, parce qu'il y avait un événement identique qui avait eu lieu en 1896, le 15 juin exactement. Donc la catastrophe est quand même d'origine humaine, on peut dire, même s'il n'y avait pas de protection adéquate pour un tel tsunami. Que les réacteurs 1, 2, 3 ont fondu, qu'il y a eu que je dise pas de bêtises, que 2 ans après la situation n'allait pas totalement maîtrisée. Qui a une forte émission de radioactivité toujours dans l'air, notamment, que le réacteur numéro 4 est à la merci d'un prochain séisme, parce qu'il est encore pas de maîtrise non plus.
La question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce qu'ils ont donc changé de logique énergétique, ou est-ce qu'ils sont restés en fait ?
Toujours pas.
C'est peut-être ça
toujours
aussi.
Toujours pas. Il y a, au contraire, il y a un revirement du Premier ministre qui souhaite encore réouvrir des réacteurs, justement, des choses comme ça.
Nouveau gouvernement, nouvelle logique.
Ouais, on peut dire ça.
Les entreprises aussi le demandent.
Les entreprises, ouais, c'est possible. C'est vrai qu'il y a un silence médiatique quand même sur ces sujets, c'est un peu compliqué, notamment en France. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Au niveau des territoires, c'est 600 km² qui ont été contaminés, au-delà de 600 000 becquerels, donc impropres à toute activité humaine. Mm-hmm. On a noté également à 250 km de là des contaminations qui rendent impropres la culture du thé, des choses comme ça. Donc c'est beaucoup plus que 600 km² probablement.
Des retombées peut-être
parce qu'il y a vraiment plein de choses. Sur les hommes, il y a 150 000 personnes qui habitaient la zone interdite qui ont été déplacées. Aujourd'hui, c'est plus de 300 000 personnes qui sont réfugiées et qui ont été évacuées. 300 000 qui sont toujours pas dans un logement définitif. Quoi. En termes de morts, il y a près d'une quinzaine de morts. Il y a deux salariés de la centrale qui ont été noyés à l'époque du site du tsunami, mais ensuite il y a eu des arrêts cardiaques, il y a eu des décès par leucémie aiguë, un choc septique, etc. Et on dénote chez les enfants pas mal de kystes, de problèmes de thyroïde également, chez les tout jeunes enfants également. Et il faut noter un truc important, qui est en fait la plupart des victimes sont des victimes en puissance, c'est-à-dire des victimes à venir, qui ne sont pas encore déclarées.
C'est cet anniversaire.
Donc voilà, c'était quand même pour en dire un petit mot rapide. D'autres réactions autour de la table, si quelqu'un veut ajouter des choses?
On ne connaît pas encore, bien sûr, le bilan, mais on peut déjà noter que la première victime, ça reste la démocratie. Le nucléaire, c'est quelque chose de militarisé. Et après un accident nucléaire, il faut rétablir une sorte de loi martiale, d'évacuation, de confinement, de cacher les impacts, etc. Le danger est aussi là.
C'est que il y a beaucoup de responsables qui étaient contre le, enfin qui avaient rechangé de position vis-à-vis du nucléaire, qui ont été forcés à démissionner, ou qui sont forcés au silence également. Il y avait un fort mouvement anti-nucléaire au Japon qui a été quand même bien, enfin aujourd'hui on l'entend moins, et pour cause, hein, voilà. Donc en effet, la victime aussi c'est la démocratie, on peut le dire. Voilà, donc après ces brèves, d'autres points d'importance sur Notre-Dame-des-Landes, moi j'ai rien noté ces dernières semaines et pour les semaines qui viennent. Sur le débat concernant la transition énergétique en France, c'est un peu silence radio, ça serait pas doucement.
Mais... Bah pour ce qui est de Notre-Dame-des-Landes, on peut rappeler que tous les mercredis, vous pouvez aller à l'AG en fait à Bonnefoy, notamment donc au centre Slowly, l'ancien Slowly en fait, pour apporter votre soutien et vous organiser même d'ici en fait pour tous les gens qui squattent là-bas, qui campent aussi pour tenir les lieux et faire en sorte que ça dure sur la longueur et que la justice regarde ça d'un œil plus avisé en fait. Parce que là pour l'instant ce qui découle en fait de Notre-Dame-des-Landes, c'est que c'est des reports en fait continuels de justice en fait.
Exactement.
Donc tous les mercredis soirs à 19h à Toulouse, ici il y a l'AG donc pour toutes les personnes qui se disent proches de ce collectif.
Ouais, ou qui sont intéressés par avoir des informations et venir donner un coup de main ou participer à des choses.
Tout à fait.
Voilà. Alors, sur le Forum Social Mondial proprement dit maintenant, je sais pas, Benjamin, tu vas aller à Tunis donc. je crois, donc c'est bien, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu.
J'ai cette chance en effet. Du coup, le Forum Social Mondial, c'est du 26 au 30 mars. En quoi ça consiste, pour ceux qui connaissent pas, c'est donc un forum international. Donc, le but, c'est de se faire rencontrer des organisations citoyennes du monde entier, sensibles à la cause altermondialiste, démocratie participative, antimilitaire. Les principaux sujets de préoccupation, la mondialisation aujourd'hui, avant tout, et tous les impacts négatifs que ça comporte. En particulier, bien sûr, l'austérité et les politiques d'austérité déclenchées par les différents niveaux des organisations internationales et les impacts que ça a, d'autant plus sur les populations les plus fragiles. En fait, cet événement, c'est une alternative sociale au Forum économique mondial de Davos, qui a lieu tous les ans en janvier en Suisse. Le premier forum social mondial a été réellement monté comme une alternative à ce forum économique. Ouais. Donc ce premier FSM, c'était en 2001, c'était donc il y a 12 ans, c'était à Porto Alegre, donc au Brésil. Au début c'était assez informel, depuis il y a une charte qui a été mise en place qui définit un peu certains principes. Donc les premiers principes, un espace de débat démocratique, on échange des idées, on approfondit les réflexions, on formule des propositions, on échange des expériences diverses et variées de militantisme et par exemple les combats des peuples indigènes pour pouvoir sauvegarder leurs terres, entre ceux qui se battent contre l'exploitation pétrolière, les autres contre l'établissement de barrages qui vient noyer leur habitat.
C'est vrai que quand on y pense, finalement, avant 2001, il n'y avait pas comme ça de forum mondial, disons, de rencontres multisujets sur l'altermondialisme en général. Quoi. Il y avait des rencontres par thème, hein, des organisations syndicales, etc., par thème, mais il n'y avait pas un forum comme ça qui nous semble maintenant tellement évident et nécessaire.
Et ouais, c'est bien dommage, ouais. Ça manquait beaucoup parce que en face, on va dire, les organisations libérales, elles sont organisées depuis longtemps et ont mis des structures au niveau mondial en place qui font qu'elles peuvent appuyer et développer des politiques globales. Et pour résister à des politiques pareilles, il faut aussi être organisé au niveau global parce que des luttes personnelles, individuelles dans chaque coin du monde, ça a jamais l'impact d'une organisation, d'une structure, on va dire, un peu globale, quoi.
Tu parlais de la démocratie mondiale parce que le fait que des mouvements sociaux se rencontrent comme ça c'est important parce que ça permet d'échanger des choses, ça permet de se rencontrer et donc de partager plutôt que d'évoluer chacun de son côté de façon peut-être parfois antagoniste.
Exactement, ouais. Ou alors voir en doublon, faire monter des trucs. Donc.
C'est le 13e si je ne m'abuse.
Ouais, Du coup, c'est régi du coup par une charte pour que ça soit ni confessionnel, ni gouvernemental, ni partisan. Faut voir que il y a des structures organisatrices, mais c'est pas des chefs, c'est pas eux qui vont dire on fait ça ou on fait ça. Ils sont juste là pour organiser les débats.
Coordonner.
Voilà, ordonné, mais il n'y a pas, par exemple, de texte écrit à la fin d'un forum social mondial où on dit, ah ben voilà, on s'est mis d'accord sur ça et ça et ça. C'est plutôt un lieu d'échange, de participation, de démocratie.
De rencontre aussi, non, on peut
dire. De rencontre, exactement, de mélange d'expérience et de lutte.
Ben, il faut quand même préciser qu'il y a plus de 4000 organisations qui sont inscrites.
Tout à fait.
Qu'il y a à peu près, je crois, recensé à ce jour, à peu près 1700 activités qui vont se dérouler pendant la semaine.
Voilà.
Du 26 au 30 mars.
Donc ça fait un peu plus de 300 par jour.
C'est quand même énorme.
C'est difficile à tout suivre.
Et ce qui fait que c'est aussi difficile de dire vraiment avec précision un programme. Il y a des grands axes, on va dire. Qui sont ceux du forum pendant la semaine qui va se dérouler, mais on est un peu assez incapable de dire, de d'énumérer toutes les activités tellement c'est énorme, quoi. Je veux dire, il y en a de à peu près tous les continents, on va dire, en langue anglaise, en espagnol. Faut dire aussi qu'il y a un certain nombre de langues qui vont être représentées, donc l'espagnol, le français, l'anglais, mais enfin bon,
l'arabe
effectivement. Que c'est quand même quelque chose de très riche, qui demande une organisation quand même extrêmement importante, quoi, faut quand même le dire, qu'il va y avoir des événements qui vont se dérouler pendant ce forum, qui sont aussi le forum des médias libres, notamment, et qui va faire que le forum lui-même, social mondial, va être suivi en radio pendant le forum, qui va essaimer vraisemblablement à son retour sur un certain nombre de radios locales, dont sans doute à Radio Campus, mais un peu partout à travers la France, hein, donc c'est aussi intéressant à citer. Et de même que pendant le forum, je disais que Forum des médias libres, c'est une chose, mais c'est pas le seul. On a aussi un autre événement qui se déroule pendant ce temps-là, qui est le forum social mondial également des sciences et démocratie du 23 au 25 mars.
Moi j'ai une question, Benjamin. Bon, le caractère un petit peu symbolique de ce forum, c'est qu'il se passe en Tunisie, donc un pays de révolution. Je pense que vous allez en parler. Ouais. Mais une question voilà qui nous vient à l'esprit, c'est est-ce que la décision en fait de l'organisation, à savoir qu'elle s'installe à Tunis, a été prise avant les révolutions ou après,
c'est en quelque sorte la révolution en Tunisie qui a permis aussi de le faire là-bas, parce que sinon on l'aurait fait ailleurs. Hein. Si ça avait toujours été Ben Ali au pouvoir, on n'aurait sans doute pas fait le forum social là-bas. Donc, pour revenir un petit peu sur l'histoire, après les premiers forums sociaux au Brésil, on a eu Mumbai, on a eu Nairobi, on a eu Belém, et puis il y a eu Dakar en 2011. Et là déjà on a pu vraiment avoir un impact fort sur la politique locale, puisque on va dire que ça a grandement contribué au départ de l'ancien président Wade. Donc on s'aperçoit quand même que c'est pas seulement une organisation qui débat et qui fait de l'échange, mais ça peut avoir aussi un rôle politique majeur. En l'occurrence, dans le pays dans lequel c'est organisé, quoi.
Ça renforce des dynamiques, disons. Ça peut renforcer voilà. Des dynamiques, des mouvements locaux.
Exactement. Localement, il y avait déjà.
Par échange avec les gens qui sont là aussi.
Exactement, quoi. Bon. Donc, ces révolutions, en l'occurrence, du printemps arabe, hein, qui ont aussi enclenché des mouvements sur les indignés, Occupy, 99%, etc., qu'on a retrouvé un peu partout dans le monde, même en Israël, même à Wall Street, à des endroits où on s'attendait pas forcément à aller voir éclore. C'est ça aussi qui a déclenché, on va dire, cette envie de réaliser ce forum en Tunisie. Aujourd'hui, il reste encore, faut bien le comprendre, des questions surtout vis-à-vis de la sécurité sur place, et puis de l'attitude des autorités qui sont pas forcément très engagé dans un tel processus, quoi, pour dire à minima. Donc voilà, c'est un exemple, on va dire, concret de lutte, de prise de position, où quand même les gens qui vont là-bas et ceux qui luttent sur place prennent un risque. Voilà.
Tu pars quand, Benjamin?
Le 25.
Un peu avant, justement.
Juste la veille, ouais. Okay. Et puis je reviens juste le dernier jour parce que j'ai une petite fille qui m'attend maintenant à la maison, qui a aussi besoin de moi. Les organisations, on va dire, elles viennent en l'occurrence dans un complexe, vous voyez, difficile, puisque récemment il y a eu donc l'assassinat de Chokri Belaïd. Mm. Voilà, ça donne un petit peu aussi le contexte. De lutte et c'est le cas aussi par exemple j'étais à Rio l'année dernière pour l'organisation du contre-sommet de l'ONU sur le changement climatique, le forum des peuples donc, et une fois qu'on est parti il y a eu aussi des assassinats de Brésiliens responsables de mouvements sociaux qui s'étaient très impliqués dans l'organisation de ce forum des peuples. Aujourd'hui en France on a l'impression que militer c'est du temps perdu ou c'est parce qu'on est riche qu'on a que ça à faire. En fait quand on remet ça dans le contexte global faut bien se rendre compte que ben voilà il y a des pays où lutter, dire ce qu'on dit là à la radio, et ben ça mérite de se prendre une balle quoi.
Oui. Ça peut causer ça en tout cas.
Ça peut le causer ça, voilà.
Et du coup,
je peux signaler que les Brésiliens qui avaient vu des reportages sur les faucheurs volontaires, ils se demandent comment on fait, parce que là-bas ils se feraient tirer dessus. Nous on se contente de recevoir des lacrymogènes ou des bombes assourdissantes.
Et du coup, oui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas omettre en fait. Vous y allez avec cette réalité. Ancré dans vos esprits, mais bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut aussi être logique et cohérent par rapport aux propos et donc être là où ça se passe. Et c'est vrai qu'en termes de révolution et en termes d'intermondialisme, pas meilleur endroit en ce moment que les pays arabes, je pense.
Même si les problématiques sont globales, hein. Oui, on parlait des enjeux tout à l'heure avec l'évolution des situations mondiales. On voit qu'en Amérique latine, il y a des régimes, on va dire, développementalistes qui conduisent à des politiques qui sont post-néolibérales, on va dire, mais qui sont pas hostiles au capitalisme, tout en faisant de la redistribution. Donc, il y a des fragmentations des mouvements sociaux là-bas. Donc, en Afrique, on a des choses différentes, avec l'accaparement des terres et des problèmes associés aux semences et à la faim, notamment. Donc, chaque endroit du monde a un petit peu des problématiques particulières et un besoin probablement d'échanger, de retrouver un courant un peu global comme ça de ressources, quoi.
Un des mots en ce moment.
C'est vrai que Tunis est quand même symbolique là en l'occurrence.
Et voilà.
Un des mots aussi qui est pas mal utilisé en ce moment par les intermondialistes du monde entier, c'est convergence. Et c'est vrai que cette idée-là, ce mot-là, il suscite tout l'espoir en fait des gens qui se battent de manière alternative à travers le monde, quoi.
Tout à fait.
C'est vrai que la convergence des luttes.
Elle est d'autant plus nécessaire qu'aujourd'hui il y a des problématiques qui commencent à être réellement globaux. Le réchauffement climatique, le pic pétrolier, ce genre de problèmes ne peuvent pas être résolus par une partie seulement de la planète. On est confronté à des crises systémiques qui sont globales et la réponse à y apporter ne peut être que globale.
Ouais. On fait une pause musicale.
Yes.
Et la pause musicale, c'est son jeu de mots, hein. C'est Night in Tunisia, forcément.
Cool.
On va faire autrement. Hein. Ouais. Une nuit en Tunisie par Miles Davis et on vient donc tout de suite après ça.
À tout de suite.
Miles Davis. D'accord. Thank you.
Et voilà, bonsoir à tous, c'était Night in Tunisia de Miles Davis, vous l'avez peut-être reconnu, donc nous sommes toujours sur Campus FM, c'est l'émission La Fabrique d'un autre monde possible avec Attack Toulouse. Et c'est Jean-Michel au micro, et je passe la parole à Benjamin qui va nous parler un petit peu du... On était sur le Forum Social Mondial, donc a lieu à Tunis du 26 au 31 mars. Voilà. On va parler maintenant des activités à Toulouse, parce qu'il y a un forum étendu, en effet.
Tout à fait. Donc, le forum social à Tunisie, donc ATTAC, fait partie du comité organisateur. Et puis, dans le monde entier, en fait, en parallèle du forum social qui a lieu à Tunis, on a ce qu'on appelle le forum social mondial étendu. Donc, des activités qui ont lieu aux quatre coins du monde, dans le cadre du FSM, et en particulier à Toulouse. Donc sur Toulouse, il y a plein d'animations. On va pas faire la liste exhaustive parce que ça serait un petit peu difficile à écouter. On peut citer quand même mardi 20 de mars, donc mardi dans une semaine et demie, dans deux semaines.
Dans deux semaines.
Pardon. D'autant plus que c'est le mercredi 20, la projection du débat Catastroïka à Utopia de Tournefeuille. Jeudi 21, une déambulation autour de l'université toulousaine du Capitole, avec, on va y revenir tout à l'heure, des découvertes artistiques et culturelles à travers le campus autour de la thématique de la graine à l'assiette, quelles alternatives pour une alimentation durable. Ensuite, il y a les petits débrouillards qu'organise samedi 23, une fenêtre ouverte sur Tunis, au café Chez Ta Mère, rue des Trois Piliers à Toulouse, à partir de 19h30. Voilà, encore d'autres manifestations organisées par les Airs Solidaires, et Marie est là pour nous en parler tout à l'heure. Mardi 26, encore des activités autour des facultés, etc. Et puis le jeudi 28, par contre, une grande soirée qui aura lieu à la Chapelle, avec en direct de Tunis plusieurs intervenants, donc présents là-bas, avec des débats, un échange convivial, un repas sur les enjeux du forum social pour l'Afrique, pour la Tunisie en particulier.
Et les enjeux et peut-être les premières impressions des participants locaux, parce qu'on aura déjà commencé. Quoi.
Tout à fait, voilà. Si, voilà, que nous, en l'occurrence, ceux qui iront là-bas pourront vous donner nos impressions un peu en direct, comment se passe le souk du FSM. Vendredi 29, encore des activités proposées par Attaque Jeune. En l'occurrence, un café philo sur l'illusion écologique. Est-ce que les multinationales arriveront à sauver la planète ou elles n'y arriveront pas? À l'Estanquet, donc rue des Blanchets, de 18 à 20 heures. Et puis le samedi 13 avril, donc une sorte de retour sur Tunis dans le cadre du forum sur les fauteurs de crise organisé par le collectif pour un audit citoyen de la dette 31. Donc on fera là aussi un compte-rendu des temps forts de Tunis et une mise en perspective avec l'Alter Summit d'Athènes qui aura lieu en juin, centré sur la problématique de l'austérité en Europe. Voilà, donc le samedi 13 avril, c'est à l'Université du Mirail à Toulouse de 14h à 20h. Pour ceux qui n'ont pas noté toutes ces infos, vous pouvez retrouver bien sûr tout ce qu'on vient de dire sur le site fsmtoulouse.wordpress.com, fsmtoulouse.wordpress.com, et puis sur le site d'attaquetoulouse.org.
Super, merci Benjamin. Donc on a un bon calendrier, agenda bien rempli au mois de mars. Alors dans cette émission, on avait dit qu'on, au-delà de la présentation du forum social, on avait dit que c'était intéressant de faire un zoom finalement sur l'une des activités à Toulouse en particulier. Et on a choisi finalement avec Air Solidaire, hein, qui sont là ce soir, de parler de souveraineté alimentaire. Donc Marie et Aurélien, je vous passe la parole.
On va peut-être juste présenter l'association pour commencer. Je vous laisse Aurélien le faire.
Oui, donc les Airs Solidaires, c'est une association qui a déjà 6 ans, une association étudiante, interuniversitaire, qui organise tous les ans un festival, donc Les Aires Solidaires, le festival Les Aires Solidaires, organisé donc sur plusieurs universités, beaucoup à l'UT1, mais aussi au Mirail et aussi à Paul Sabatier. Et donc c'est un festival qui se veut ouvert à tous, accessible au niveau des tarifs, et qui traite tous les ans d'une thématique de solidarité internationale. Et cette année, en l'occurrence, c'est l'alimentation de la graine à l'assiette. Quelles alternatives pour une alimentation
durable. Voilà, en fait, l'objectif premier du festival, c'est d'essayer de sensibiliser les étudiants et tous les étudiants, pas seulement les étudiants qui viennent traditionnellement à des conférences sur le sujet. C'est pour ça qu'en fait, on essaye vraiment de mélanger des événements artistiques et culturels avec des événements de sensibilisation. Et cette année, on s'est penché sur la thématique de l'agriculture et de l'alimentation parce qu'on n'en parle pas vraiment dans les facs. C'est vraiment pas un sujet qui est d'actualité ou à la mode, et c'est bien dommage. Et donc voilà, donc on a plusieurs événements et des conférences, donc pour garder quand même un côté un peu rentré dans les détails, notamment une avec Michel Metz sur la propriété intellectuelle sur les semences et les conséquences que ça a pour les paysans. Et puis on a aussi dans le cadre du FSM des événements comme la déambulation, qui sont donc sortir la connaissance des amphithéâtres pour la mettre dans les couloirs, les jardins, et aller vraiment à la rencontre des étudiants avec donc des ciné-débats, des activités artistiques, de la danse, du conte, et aussi tout un travail d'association comme le réseau Semences Paysannes, comme Bleu comme une Orange, qui est une association toulousaine, pour aller vers les étudiants et proposer des activités participatives.
Ça reste à l'intérieur des facs, hein. Vous n'allez pas dans les rues de Toulouse, etc.
Non, on aimerait bien, mais on n'a pas encore les moyens logistiques et humains. Mais, par contre, on essaie vraiment d'ouvrir les facs sur la ville, et donc tous les gens, c'est pas dédié aux étudiants.
D'accord.
On essaie vraiment de faire venir les gens.
Voilà. On peut rentrer. D'accord.
Ouais, c'est l'idée aussi de dire que le savoir qu'à la fac ne doit pas être exclusivement dédié aux étudiants.
D'accord. Il faut quand même noter qu'il y a des ateliers qui sont organisés par les aires solidaires en dehors des universités, notamment au collège de la Rennerie. Ouais. Et donc il y aura un événement là-dessus pour retranscrire un petit peu ce qui s'est passé. Et donc il y aura d'autres partenariats avec des associations au-delà des universités.
Ouais.
Très bien. Alors, si on parle des lois sur de l'accès aux semences, l'alimentation, j'avais noté diverses choses. J'avais noté les problèmes de spéculation depuis 2006, je crois, 2006-2008, là, mm-hmm. avec une forte augmentation des prix sur les marchés des semences. J'avais noté quelque part, je l'ai mis là, qu'il y avait 40 fois la production mondiale échangée sur les marchés. Les marchés. Je ne sais pas si j'avais noté ça il y a quelques temps.
Non. La proportion des denrées alimentaires échangées sur le marché mondial, c'est 10% de la production. Alors, on ne parle peut-être pas de la même chose,
hein, ouais.
Mais il faut savoir que les prix agricoles sont quand même fabriqués à partir de ces 10%, alors qu'il y a 90% qui ne sont pas sur le marché mondial.
D'accord.
Et c'est en gros les bourses de
donc
Chicago,
c'est
ça qui
décide.
Hein, voilà.
Donc, des fois, d'accord. Donc c'est par contre sur ce 10%
là, c'est là où se fabriquent les prix mondiaux, avec en plus, il faut le dire, des aides scandaleuses de la part de l'Europe pour les agriculteurs européens, pour exporter vers le sud, et pareil pour les Américains, hein, et qui mettent en l'air les paysanneries locales. Ça c'est un phénomène qui est pas tout à fait récent, mais qui s'amplifie, et s'ajoute à ça bien sûr le problème d'accaparement des terres. Et s'ajoute à ça, bien sûr, le problème des semences, dont on va parler un petit peu. D'ailleurs, je voudrais juste faire une petite remarque. Marie parlait de l'agriculture durable. Je pense que c'est un mot qui est très utilisé par pas forcément nos amis. Je pense qu'on peut rajouter deux qualificatifs. C'est durable, solidaire et nourricière. Et ça, je trouve que c'est pas mal. On pourrait dire paysanne aussi, mais voilà. C'est pas l'agriculture industrielle.
Ouais.
Ça, c'est une info vachement importante. J'avais jamais entendu dire ça, qu'il n'y a que 10% de la production mondiale qui est échangée et qui
marchés.
Sert à faire le prix.
Oui, oui.
C'est ça qui est incroyable.
Quoi. Mais il y a encore de la place pour le vivrier, le local.
Justement, ça. Enfin, le problème, c'est que ces procédés-là ont mis complètement en l'air une très très grande partie des productions locales, parce que vous avez des tomates sur le marché de Dakar qui arrivent à trois fois moins chères que celles qui sont produites par les paysans locaux.
Mm-hmm.
Il y a une asymétrie en termes de productivité, et en plus il y a des aides. Enfin, alors on peut dire que la concurrence est complètement faussée, et ça a jeté des millions et des millions de paysans dans les bidons.
vivre, hein, mm-hmm. et partout sur la planète, dans les pays du Sud, du moins.
Je me souviens des problèmes de poulets aussi. Sur,
oui, ça aussi, on exporte les carcasses, il reste un petit peu de viande, et c'est pareil. Alors, il y a quand même, du côté de la Côte d'Ivoire, là, on avait fait venir quelqu'un ici, je ne me souviens plus de son nom d'ailleurs, mais c'est quelqu'un qui s'était beaucoup engagé sur le sujet. Il est arrivé à refaire, et je ne me souviens plus exactement de tout ce qu'il a fait, mais il est arrivé à refaire produire des poulets locaux, et ils se sont opposés, disons, à ce que nos producteurs à nous, qui font ça dans des conditions épouvantables, mais ils envoient les bas morceaux. Quoi. Ouais, ouais. Et les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, surtout s'ils sont dans les bidonvilles, ils achètent ça. Mmh. Donc le problème, c'est vraiment le problème de la souveraineté alimentaire. Je pense que les quelques décennies de néolibéralisme ont jeté énormément de gens dans les bidonvilles. Et je pense que c'est un des sujets fondamentaux. Ça. Aujourd'hui, on dit il y a quand même de plus en plus d'experts qui disent qu'il faut redonner la possibilité aux paysans, aux petits paysans, de fonctionner. Mmh. Alors que jusqu'ici, tout le monde néolibéral les a au contraire complètement poussés. Et alors, pour enchaîner sur le sujet pour lequel je suis venu, on peut pas envisager la souveraineté alimentaire s'il n'y a pas de souveraineté sur les semences, s'il n'y a pas d'autonomie sur les semences. Alors peut-être juste un mot sur ces semences que nous on aime dire semences paysannes, mais il y a aussi les semences industrielles. Hein. Disons que les semences paysannes, c'est celles qui sont produites par les paysans, hein, dans les champs des paysans. Et elles sont encore produites par 80% des paysans, parce que dans le Sud, on parlait tout à l'heure des pays du Sud qui étaient très attachés à leur tradition, mais aussi à leurs semences. Hein. C'est très souvent sacré pour eux. Et en Europe, par contre, ça a quasiment disparu depuis environ un siècle. Les particularités ou les propriétés de ces semences, c'est très important. Il y en a au moins deux, on pourrait en donner plus, mais c'est qu'elles ont une très grande diversité. Très grande diversité sur les espèces, sur les variétés, et aussi une diversité génétique à l'intérieur des variétés. Ça, c'est très très important. Et l'autre particularité, c'est qu'elles ont toujours été régies par des droits d'usage collectif. Ça, c'est fondamental. Hein. Et ce qu'on est en train d'essayer de recréer dans les pays du Nord, où on a complètement arrêté ça, c'est justement réintroduire ces notions de solidarité, de droit collectif. Et quand on parle de maison de la semence paysanne, nous, c'est de ça qu'il s'agit.
Hein. Alors, en tant que néophyte, moi, je me posais la question, enfin, je crois que c'est depuis le 19e siècle, hein, ou ça doit être quelque part au début du 20e, pour être sur les marchés commerciaux, les productions agricoles doivent être enregistrées sur des catalogues.
Oui, alors ça, c'est...
Et ces catalogues imposaient soit la pureté de la... Comment dire,
Mais c'est sur l'homogénéité, hein.
Voilà.
Sur l'homogénéité, la stabilité, c'est une pureté etc. génétique, avec tout
pour,
ce que ça
pour
peut...
Quelle raison pour quelle raison, finalement
Il y a plusieurs raisons. Alors ça date, si bonne mémoire, les premiers doivent dater des années 50. Et au début, c'était simplement pour mettre un petit peu d'ordre, parce qu'il y avait des tas de variétés qui se vendaient sous des noms, on trouvait sous des noms différents les mêmes variétés. Bon, à la demande même des agriculteurs, et puis après, comme d'habitude, hein, quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y en a qui s'en emparent, et c'est devenu un facteur d'exclusion très important. Alors, on appelle ça la norme DHS, distinction homogénéité stabilité, et on ne peut pas commercialiser une semence si elle ne possède pas ces critères-là, parce qu'on ne peut pas l'inscrire sur le catalogue. Alors, il y a encore des dérogations qui existent, notamment en ce qui concerne les semences qu'on vend à des jardiniers, c'est-à-dire en autoproduction, quoi. Là, disons que, pour le moment, ce n'est pas encore obligé, mais en ce qui concerne les nouvelles lois, la loi française et les nouvelles lois européennes, ça c'est la seule dérogation qui existe, celle-là, là, sur la commercialisation des semences, il y a de fortes chances qu'elle tombe. Il y a ce problème de catalogue, ça c'est très important, et l'autre volet, qui n'est pas complètement dissocié, après c'est la propriété intellectuelle, avec les brevets, bien entendu, et aussi ce qu'on appelle les certificats d'adaptation végétale. Bon, j'ai pas trop le temps de rentrer dans le détail parce que c'est un peu compliqué. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les droits de propriété se sont beaucoup développés. Il faut savoir que, par exemple, la brevetabilité du vivant, c'est récent, hein. C'est 1980 aux États-Unis. Il a fallu attendre 98 en Europe pour que ça arrive, hein. Il y a eu beaucoup de batailles parce que c'est pas notre culture, le brevet, alors que c'est complètement la culture des Américains, mais c'est pas notre culture.
Et c'est vraiment la loi des brevets, c'est-à-dire que c'est protégé pendant 20 ans.
C'est plus que ça en général, c'est 25 ou même parfois 30 ans.
D'accord, hein. C'est pas les mêmes durées que pour les brevets industriels ou autre.
Il se trouve que pour cela, c'est juste un petit peu plus long. Mais ça a des conséquences terrible, et notamment comme ça coûte extrêmement cher, hein, parce que ça veut dire que ce sont des graines technologiques avec en plus de la propriété intellectuelle. Bon, tous les coûts de transaction qu'il y a autour, d'abord il y a la recherche et le développement qui coûte très cher, et en plus toutes les transactions qu'il y a autour des brevets, alors soit pour déposer des brevets, mais aussi pour faire du procès à celui qui et tout ça, ça coûte très cher. Et ça a provoqué une concentration phénoménale du secteur semencier. Mmh. Aujourd'hui, vous avez moins de 10 firmes qui détiennent entre la moitié et les deux tiers du marché, et ça ne fait que s'accentuer. Et ils ont obtenu maintenant une surface financière et politique, on peut dire, qui est gigantesque. Donc, alors ça pose plusieurs types de problèmes. Hein. Ça pose un problème. Le fait d'imaginer que les semences qui sont le premier maillon de la chaîne alimentaire puissent être produites, commercialisées, vendues par moins de 10 firmes, des multinationales, déjà ça fait un peu peur. Mais au-delà de ça, il y a aussi tout le problème de la biodiversité, ouais. Parce que ce sont des industriels, ils sont sur des stratégies d'économie d'échelle, et eux, ça les intéresse pas de faire des tas de petites variétés en petit nombre, chacune en petit nombre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la variété élite qu'ils vont pouvoir reproduire en des milliards d'exemplaires. Et comme en plus elle est de plus en plus technologique, hein, elle coûte de plus en plus cher. Hein. Alors par rapport à ça, il faut qu'on puisse avoir il faudrait que les paysans retrouvent leurs droits de produire, d'échanger leurs semences. Et ces droits, ils sont bafoués et de plus en plus. Hein. Alors ça, c'est vraiment des enjeux très importants. Alors, il y a des campagnes actuellement, mais c'est pas gagné, mais c'est pas perdu non plus, parce qu'il y a quand même dans les pays européens, il y a quand même des mouvements assez importants, même s'ils sont pas très connus, pour défendre cette biodiversité cultivée. Il faut savoir quand même le chiffre, hein, c'est que la FAO hein, reconnaît qu'il y a 75% de la biodiversité cultivée qui a disparu en l'espace de moins d'un siècle. C'est considérable. Nos aînés ont produit une biodiversité cultivée d'une prodigieuse richesse parce qu'ils étaient de nombreux paysans, et des semences qui sont mises dans un endroit particulier ne va pas se modifier comme dans un autre endroit, etc. Et ils ont fait quelque chose de fabuleux, autant dans le nombre de variétés que dans la diversité qui reste à l'intérieur des variétés. Et ça, c'est les standards de l'industrialisation. L'agriculture industrielle, de ce point de vue-là, c'est une catastrophe.
Et les multinationales qui répondent que c'est aussi pour pouvoir nourrir la terre que...
Oui.
Cet argument-là...
Ils le disent aussi pour les OGM, qu'avec ça, ils vont nourrir la terre.
Ah, qu'est-ce qu'on en fait
de façon,
cet argument, alors ?
Je ne vais pas vous faire un cours sur le cynisme de nos dominants. Hein. C'est scandaleux. Ils ont mis des millions de paysans dans les bidonvilles. Et le résultat, au niveau de l'agriculture, c'est plutôt celui-là que le fait de nourrir la population. Et si les populations sont pas solvables, de toute façon, ils n'auront pas accès, même si c'est pas cher, sur le marché.
Mmh. Bon, y a aussi la réalité, en fait, c'est que maintenant, les denrées alimentaires sont boursicotées. Enfin, les valeurs, en fait...
Oui, alors, je pense que tu fais allusion aux familles, aux émeutes de la faim, là, qu'il y a eu, je crois que c'était en 2008. Il y a eu plusieurs phénomènes qui se sont cumulés, et c'est vrai qu'il y a eu aussi de la spéculation. Mais la spéculation, elle n'est pas arrivée en premier. Hein. Il y a eu les conditions climatiques qui ont été assez détestables. Il y a le fait que, si j'ai bonne mémoire, les Américains ont consacré le tiers de leur production de maïs pour faire des agrocarburants, hein, alors qu'ils étaient exportateurs, du coup ils ont moins exporté. C'est vrai que la Chine est de plus en plus consommatrice. Il y a eu tout un ensemble de facteurs. Et en plus, il y a eu de la spéculation. Mais il ne faut pas dire que le seul problème de l'agriculture soit celui de la spéculation.
C'est un qui est lié justement à cette mainmise en fait des multinationales et des lobbies autour justement du vivant.
Oui, mais ça c'est bien sûr. Alors, il y a quand même un certain nombre de gens, parce que disons que tout ça s'est beaucoup accentué depuis les accords de Marrakech, hein, depuis l'OMC. Avant, l'agriculture ne faisait pas partie de ces accords, elle faisait pas partie du GATT, elle fait partie de l'OMC, et ça, c'était une catastrophe pour les agriculteurs. Ah, pas pour tous, hein, c'est toujours pareil, il y en a quelques-uns qui en ont beaucoup bénéficié, mais pour les autres, c'était une catastrophe, et aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de gens qui pensent que l'agriculture doit sortir des matières de l'OMC.
Michel, pour être sûr que j'ai bien compris, les droits des paysans à ressemer leur récolte pourraient s'appliquer sur les variétés anciennes, sauf qu'elles ne sont pas dans les catalogues, c'est bien ça ? Donc ils ont un problème là. Et, ou alors d'utiliser les variétés qui ne sont pas brevetées, donc antérieures à 80 ou 98, c'est ça ?
Non, le problème, c'est qu'on ne sait pas celles qui sont brevetées, on ne le sait même pas. Hein, si vous voulez, il y a des brevets qui sont déposés, par exemple, sur un procédé d'obtention, mais quand on achète une variété, on ne sait même pas. Hein. Mmh. Alors, et en ce qui concerne les semences paysannes, comme on
achète. Pourquoi c'est pas dans les lois, on pourrait très bien imposer aux semenciers.
On devrait surtout revenir sur la brevetabilité du vivant. Là, il y a quelque chose d'énorme à faire. Je pense qu'il faut que les citoyens de la planète se saisissent de ce problème-là. Le brevet sur du vin, c'est une monstruosité, et même sur le plan commercial, ça ne marche pas bien. Alors il y en a quelques-uns, comme d'habitude, qui s'enrichissent, mais ça finit par coûter tellement cher, hein, et il y a tellement de brevets croisés, les gens, quand ils commencent quelque chose, ils ne savent pas s'ils ne vont pas se faire attaquer par le voisin. Quoi. Et ça coûte des fortunes, et bien sûr, ça se répercute sur les prix. Alors, ta question, c'était quoi,
vous? C'était pour comprendre si les brevets sur les semences ne sont apparus que dans les années 80 aux États-Unis, 98 en Europe, ça veut dire que toutes les semences antérieures à ces dates-là peuvent être utilisées et ressemencées.
Les brevets sur les semences, il y a deux types de propriétés intellectuelles. Les brevets sur les semences, ils sont arrivés avec les OGM. Hein, et en France, en Europe, ils ont débarqué dans les années 80, au milieu des années 90. Hein, et c'est là où il y a eu deux mouvements qui se sont mis en place, parce qu'il y a des gens qui se sont dit, on va plus pouvoir accéder à nos semences. Alors ça, c'est plutôt les bio, les biodynamistes, ceux qui sont dans l'itinéraire court, tout ça. Et il y a eu un mouvement pour les semences, mais il était très informel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont dit, il faut qu'on conserve absolument, il faut qu'on aille voir les vieux, il faut qu'on aille dans les banques de semences qui étaient gérées par l'INRA. Ils ont essayé de recultiver ces semences-là. Ça, c'est le mouvement des semences paysannes qui s'est concrétisé en 2003 par la création du mouvement du réseau des semences paysannes. Mais en même temps, il y a l'autre mouvement, c'est le mouvement anti-OGM. Et là, c'est une bataille frontale contre les multinationales, et en particulier, bien sûr, Monsanto. Et alors, c'était d'abord mené par la Confédération paysanne, hein, avec José Bové en tête, tout ça. Bon, moi, je fais partie des faucheurs, et je continue d'ailleurs. Et ce qui est amusant, c'est que la même année, en 2003, il y a eu la création du réseau de semences paysannes, d'une part, et en même temps, la création du collectif des faucheurs volontaires. Enfin, je pense que c'est pas tout à fait un hasard, parce que ce sont vraiment les deux facettes d'un même combat. La propriété intellectuelle sur les semences, ça a tellement plus d'inconvénients que d'avantages qu'il faudrait pouvoir s'en séparer. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a l'autre système de protection qui est le COV, et ça existe depuis plus longtemps, et pratiquement toutes les plantes commerciales sont couvertes par un certificat d'obtention végétale. Mais il peut y avoir aussi des brevets, mais pour le moment, il n'y a pas autant.
Est-ce qu'on peut dire que les OGM sont vraiment liés à la question de la brevetabilité?
Ah ben complètement, hein. Hein, complètement. Il n'y aurait pas les brevets, je pense qu'on ne parle même pas d'OGM.
C'est une élaboration. On fait une pause musicale.
Ouais.
Oui, c'est comme ça. et la pause musicale, c'est Dembélé Foul, hein, parce qu'on parle de souveraineté alimentaire. Dembélé Foul, mais des Hongries. C'est Bob Marley qui le disait, hein, un homme qui a faim, c'est un homme généralement qui n'est pas content. Donc on écoute ça et on revient tout après sur les ondes de Campus FM.
Them belly full, but we hungry. Hungry mob is a hungry mob. tick-tock. I bought a yoke, but you don't know if we're gonna talk to your music, talking. Hey, we're talking to your music, we're talking.
Donc, bah Marley, hein, il le disait lui-même, quelqu'un qui a faim, c'est quelqu'un qui n'est pas content. On reprend l'antenne de manière assez animée. Ça débat dans tous les sens, mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Hein. C'est ça aussi qui fait l'intérêt de ces émissions riches en informations.
En informations, ouais, et en débat, en effet. Et donc, on parlait des semences paysannes avec Michel et les aires solidaires ce soir autour de la table lors de l'émission La Fabrique d'un autre monde possible. Il est 6h10, il nous reste 10 minutes. Et donc, on parlait des brevets, on parlait des accès aux semences paysannes par les agriculteurs et les paysans du monde. Michel, tu peux nous en dire quelques mots sur les actualités finalement?
Oui, alors il y a des choses qui sont autorisées. Hein. Quelqu'un qui a une semence héritée de ses parents, il a le droit de la cultiver et il a le droit de vendre la production.
Si ça,
il y a
pas de problème.
Ce qui est réglementé, c'est la commercialisation.
D'accord.
Hein. Mais il faut savoir que l'échange est considéré comme de la commercialisation. Voilà, dans les lois sur les semences. Donc, des paysans n'ont pas le droit d'échanger des semences entre eux dès qu'ils en font un peu de volume, quoi. Hein. Et ça, c'est une restriction colossale, parce que ce qui a produit la biodiversité, c'est aussi le fait que les paysans échangeaient les semences entre eux. Donc, il y a tout un mouvement qui est national et international, notamment porté par la Via Campesina, pour le droit des paysans sur leurs semences. Hein.
On rappelle d'ailleurs que la Via Campesina a une journée mondiale aussi, en avril.
Oui, effectivement.
Qu'elle appelle en ce moment pour justement organiser cette journée.
Oui, alors je me souviens plus du thème qu'ils ont mis en avant cette année, mais effectivement, ils en font une régulièrement tous les ans. Ouais.
Il suffit de taper Via Campesina et on peut trouver des informations.
Ah, sur le site de Via Campesina, c'est dessus, il n'y a pas de problème.
Bon, typiquement, en fait, là, on parle quand même des faucheurs, des anti-OGM, des semences paysannes. Enfin, c'est vrai qu'il y a plusieurs collectifs qui se battent sur des problèmes qui, en fin de compte, se relient.
Ils sont convergents, oui.
Et tout à l'heure, on disait qu'il y a quand même 1500 activités au Forum Social Mondial. Comment on fait pour s'unir lorsqu'on est tous, pas proches de la vérité, mais se battant pour un courant, pour une idée, et faire en sorte que, au final, ça fasse bouger les choses, en fait. Là, on est typiquement face à une réalité, celle de la surmultiplicité, en fait, des combats.
Enfin, moi, je dirais que le combat sur les semences, il n'est pas perdu, je parle que de celui-là. Il n'est pas perdu parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs de par le monde, simplement des paysans qui continuent à faire leurs semences, et même dans les pays européens ou américains, il y a des acteurs de la biodiversité. Ils ont décidé de prendre le problème à bras le corps, et maintenant, disons, ceux qui restent, on est quand même en mesure de le préserver. Par contre, sur le plan commercial, ça représente pas grand-chose. Mais ça, c'est pas forcément le plus grave problème. Hein, le problème, c'est que ce que nous avons encore, il faut surtout le maintenir. Et ça, je pense maintenant, on a des réseaux qui fonctionnent plutôt bien, permettre. Ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens, mais il n'y a pas non plus besoin d'énormément de choses. Moi, je suis dans une petite association locale où on demande aux jardiniers de cultiver 1 mètre carré de blé pour pour conserver des collections de blé, par exemple. Et ça, je veux dire, tout le monde peut y faire. Je vais parler des paysans, mais il faut aussi parler des jardiniers. Et on a aussi des artisans semenciers qui font un très très bon boulot. Il y a quand même beaucoup d'acteurs, et le réseau, je tiens à le dire, le réseau des semences paysannes, c'est d'abord et avant tout un réseau d'acteurs, mais il a acquis aussi une assez forte reconnaissance sur le plan technique, sur le plan juridique aussi.
Et typiquement, par rapport à ce sujet, est-ce qu'on continue à se battre contre, ou justement est-ce qu'on a les clés en fait de l'avenir entre les mains, on se dit bon, on laisse tomber ce combat contre ces multinationales et on fait de notre côté, parce que c'est vrai qu'avec la logique de la souveraineté alimentaire et ses possibilités en fait de relocaliser en fait cette richesse, disons-le, il y a pas aussi une logique de se séparer de ce combat face
non, je pense qu'on est obligé de mener les deux de front, comme très souvent, hein, parce que au Mexique là, ils viennent de laisser ces 2 millions d'hectares, je crois, qu'ils viennent d'autoriser la culture OGM, hein, le berceau du maïs, le berceau, c'est le berceau du maïs. On peut pas les faire, on n'a pas beaucoup de moyens pour les en empêcher, malheureusement, mais je pense que c'est les deux facettes d'un même combat, hein. Par contre, c'est vraiment très important d'avoir des choses pour, d'avoir des choses qui fonctionnent, et on les acteurs de la biodiversité, je pense que c'est des gens qui vivent heureux, hein. Alors que quand on va se prendre des grenades sur la figure, quand on va faucher, on n'est pas forcément très heureux, mais on sent que c'est complémentaire, quoi.
Le bonheur passe par là.
Les aires solidaires, vous aviez des compléments à apporter, peut-être?
Juste pour dire que ce débat, on va essayer de l'approfondir pendant une conférence, en fait, donc on aura vraiment une heure et demie pour approfondir le thème avec Michel, mais aussi avec Jacques Danglot qui parlera plutôt des OGM, et avec Dominique... je me souviens plus de son nom. Une chercheuse de l'INRA qui travaille...
Dominique Desclos.
Voilà, Dominique Desclos qui travaille sur ce thème-là à l'INRA, et donc on pourra aussi créer un débat entre ces différentes personnes, à avoir vos questions, donc n'hésitez pas à venir. C'est le lundi 25 mars à l'université Toulousain-Capitole, donc l'Arsenal. C'est en amphief, et donc vous avez toutes les infos sur le site du FSM, fsmtoulouse.wordpress.fr ou lesairsolidaires.org.
Moi, pour conclure juste sur cette logique, enfin cette question de la souveraineté alimentaire et du combat contre Monsanto, parce que quand même c'est l'ennemi juré, disons-le, c'est la victoire du paysan français qui a réussi à aller en justice. Bon, sur un autre volet, celle de la santé, où il a prouvé en fait qu'en utilisant en fait des OGM, enfin du Monsanto, il y a eu donc des conséquences au niveau de sa santé.
Tu parles de Séralini?
Je connais plus
c'était
son
les
nom.
Pesticides plutôt, il me semble.
Oui, c'est par rapport aux pesticides. Il y a un homme en France dont j'ai oublié le nom, mais qui a gagné un combat contre Monsanto, qui allait en justice en région
Poitou-Charentes.
Ouais, non. Voilà, en Poitou-Charentes, ouais. Pour être précis. Mais... Et il a gagné un combat contre Monsanto.
Monsanto a aussi des soucis avec la justice américaine actuellement. Hein. On attend les résultats.
Mais ça, c'est important de le rappeler pour nos auditeurs, c'est que c'est pas des combats en vain, que face à ces monstres, ces géants, il y a aussi des brèches comme ça qui peuvent être.
Mais ils ont aussi des soucis d'ailleurs avec les plantes qui commencent à résister. Au Roundup, puisqu'on parle d'OGM et donc de plantes qui peuvent résister au Roundup, mais la nature est tellement bien faite que une petite plante qui a appris à résister au Roundup, du coup, se met à envahir les champs entiers OGM. Et du coup, on est obligé de rajouter différentes produits et composantes dans les pesticides qu'on y met. Et ça, c'est en train de détruire le modèle économique des OGM. Peut-être qu'en fait, avant même que nous, petits paysans, petits jardiniers, on arrive à détruire Monsanto, c'est rien que son système économique et de brevets qui va s'écrouler de l'intérieur.
Oui, mais enfin, ils ont des ennuis avec ça, c'est vrai, de vrais ennuis, mais ils se relancent par ailleurs. Et actuellement, on voit des nouvelles plantes qui arrivent, qui sont des plantes mutées, qui résistent à d'autres types d'herbicides. Et dans 15 ou 20 ans, les résistances seront arrivées, et puis ils trouveront autre chose. C'est toujours la fuite en avant. Ils ont de la ressource, hein. Et puis en plus, ils ont les moyens.
Hein. Ouais. C'est vrai que voilà, pour faire comprendre à nos auditeurs à quel point ces combats sont importants, c'est que c'est pas gagné, rien n'est gagné, que ça continue et que ils sont jamais à l'abri en fait de mauvaises surprises, comme le rappelait si bien Benjamin.
Ouais. Voilà. C'est essentiel, hein. C'est essentiel. J'avais noté des sites là qui sont ceux dont on n'a peut-être pas parlé encore. J'en avais noté un notamment qui est www.semonslabiodiversité.com. Il y a plein d'infos dessus. Il y a des 4 pages qui détaillent tous ces sujets-là. On peut peut-être passer du coup. Est-ce qu'on a un mot de conclusion sur les aspects semences, biodiversité? Sinon, je passe à l'agenda local. Pour conclure, donc, tu avais donné la date. Hein.
Oui.
C'est le 25
conférence
mars.
Conférence le 25.
La conférence,
on fait une autre conférence le 26 sur justement les alternatives qui existent au niveau global pour faire évoluer les organisations internationales. Et là, on a un juriste, un économiste et un politiste pour venir parler de ces questions-là. Et c'est de dire que bah voilà, il y a beaucoup de choses qui vont mal, mais il y a aussi des moyens de faire évoluer les choses, à la fois au niveau local, et ça, c'est ce qu'on montre à travers notre déambulation en faisant intervenir les acteurs toulousains sur ces questions pour montrer aux gens qu'il y a plein de choses qui se passent ici, et à la fois au niveau global, à travers cette conférence.
Michel, tu as un mot de conclusion pour
ce sujet ? Oui, simplement, moi je pense que les OGM sont vraiment entrés dans le débat public. Ça, tout le monde, enfin, je dis pas que tout le monde est bien au courant, mais je pense qu'ils se rendent compte qu'il y a des enjeux de confiscation du vivant, éventuellement des enjeux sanitaires.
De confiscation des capacités d'alimentation.
Voilà, c'est ça. Hein. Et par contre, celui des semences n'est pas encore vraiment entré dans le débat public. Alors, les gens sont quand même sensibles à la notion de biodiversité, mais c'est vrai qu'il y a un travail à faire pour que ces gens reviennent. Mais même chez les paysans ont perdu l'habitude de faire leurs semences. Il faut savoir ça. À part des céréales, des choses comme ça, mais ils ne le font plus. Chez nous, hein. Dans les pays du Sud, ils savent encore le faire.
Ouais. Donc, ils ont des choses à nous apprendre encore.
Mot de la fin, il est déjà 18h. Hein.
C'est mais bon. Non, juste quelques dates. Il y a des conférences Attaque à Amis du Monde Diplomatique. Mardi, demain, il y a Quel président pour quelle 6ème République avec Stéphane Beaumont. C'est à la salle Sénéchal.
À 20h30.
Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ?
Les abeilles, entre génisme.
Oui, 19h19.
C'est au Récantou, ça.
Oui, 19h19.
C'est au Récantou avec Cyril Viala, en effet.
C'est à 19h19.
Exact. Il a toutes les infos, Magide aussi. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ?
C'est toujours à 19h19 au Récantou.
Toujours à 19h19 au Récantou.
Jeudi 14, il y a Projection Débat avec Thomas Lacoste et Geneviève, qui est le réalisateur du film, et Geneviève Azam autour du film Notre Monde. C'est à Utopia Toulouse. Je n'ai pas l'horaire, mais c'est dans la Gazette Utopia.
Il y a un festival qui s'appelle Des bâtons dans les urnes. Non,
ouais.
Des bâtons dans les urnes, ouais, voilà.
Dans les rues.
Cette année, c'est des bâtons dans les rues. Donc voilà, si vous voulez tout savoir de ce festival, vous tapez, je crois, des bâtons dans les rues. Ils ont carrément fait un petit WordPress, un site aussi.
Voilà, et ensuite, j'avais noté les deux conférences des aires solidaires, le 25 et le 26, dont on a déjà parlé. Et le 26 également, il y a une conférence AM notamment. Voilà, donc c'est un mois de mars bien chargé.
Ouais.
On se retrouve le 8 avril. Pour l'émission
de la fabrique
de la fabrique de notre monde possible avec Attaque.
FM avec Attaque. Et bon voyage à Benjamin. Ramène-nous de belles idées pour l'avenir et pour le mouvement altermondialiste.
C'est toi qui fais le compte-rendu alors. Bonne fin de soirée à tous et à bientôt. Bon courage. Portez-vous bien.